l'histoire que je voulais voir ce soir et à travers les Écritures est une histoire très connue et très intéressante, très utilisée. Et c'est pourquoi je suis un petit peu stressé qu'on tourne ensemble, parce qu'en même temps, il y a tellement d'importance, ce texte-là, que j'aurais peur de passer à côté de tout ce qui pourrait être dit. Mais on ne sera pas capable de dire tout ce qu'il y a à dire sur ce texte-là. Et juste pour rappeler ce dans quoi on s'est lancé dans les dernières semaines, là, quand c'est moi qui prêche, on a commencé à regarder les héros de la foi. Et puis, on a arrêté dans Hébreux 11, on a arrêté au verset 16, et on était dans une section de la vie d'Abraham, et on a coupé une section de la vie d'Abraham qui était importante, et le texte de ce soir, justement. Avant qu'on tourne dans Hébreux, on va commencer avec le texte de Genèse. Si vous avez déjà tourné, je vous invite déjà à tourner dans Genèse, le chapitre 22. Et avant qu'on commence à le lire, je pensais faire une courte rétrospective un peu de la vie d'Abraham rapidement, et le temps est déjà avancé, mais on se souvient qu'à l'âge d'à peu près 75 ans, Dieu a appelé Abraham de sa patrie, à sortir de sa patrie. En arrivant en Canaan, une famine sévère a amené Abraham, Sarah et Lot à quitter et à s'en aller en Égypte. En Égypte, Abraham a peur qu'un Égyptien prenne sa vie parce que sa femme, est une belle femme, et puis elle est convoitée, elle est admirée. Alors, on convient ensemble qu'on va t'appeler ma sœur, ce qui était vrai et faux, parce que c'était pas seulement sa sœur, c'était quand même sa femme. Et là, on se rend compte que finalement, l'Égyptien apprend par la suite que c'était la femme d'Abraham, puis pourquoi est-ce que tu m'as caché la vérité? Et puis là, alors ça, c'est une portion de la vie d'Abraham. Abraham revient s'installer à Bethel, entre Bethel et Haï. Et là, rapidement, Abraham et Lot commencent à voir, pas nécessairement les deux entre eux, mais les bergers de ces gens-là commencent à avoir des différends, puisque leur richesse, leur patrimoine a considérablement augmenté. Et là, on commence à manquer d'herbe pour les moutons. Alors, finalement, ils se partagent le terrain. Et ensuite de cela, un peu plus tard, Abraham est pris en captivité. Abraham a su à propos de la captivité de son neveu. Il a pris 318 de ses serviteurs, et puis il est allé reprendre Lot et ses biens. Et puis l'histoire se continue. C'est dans la même période où ce qu'on voit qu'Abraham, par la foi, il avait offert la dîme de ce qu'il avait au roi de Salem, qui est Melchisédek. Qui justement, ce roi de Melchisédek est décrit dans Hébreu et puis même dans Genèse comme étant sacrificateur du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Alors déjà à ce temps-là, où ce que le système, où ce que ça allait venir avec Moïse, plusieurs années après, déjà Melchisédek était là comme sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et à travers tout cela, à travers ces portions d'histoire-là, Dieu a appelé Abraham et lui a fait des promesses. Promesses de territoire, de bénédiction, de postérité. Et on arrive dans Genèse 15, après ces événements-là, 1 à 6, sans les relire. Je fais juste vous citer quelques versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Alors là, Abraham revendique un peu avec Dieu en disant, « Tu m'as fait une promesse. Où est-ce qu'elle est, cette promesse-là? Est-ce que c'est Eliezer qui va être l'héritier? » À travers la vie d'Abraham, ce que je veux relever à travers ces épisodes-là, c'est que Abraham était, au moment de son appel en Chaldée, il était un jeune croyant, il était un croyant qui a placé sa foi en Dieu, et qu'à partir de ce moment-là, il apprenait à marcher avec Dieu et à dépendre de Dieu. Et sa foi était grandissante, sa foi est en train d'apprendre lui aussi à marcher avec Dieu. Et puis en même temps, la promesse n'est pas arrivée encore. Puis Dieu est où cette promesse-là de la postérité? Alors, quelques années après, que ces choses sont passées, il fut dit à Abraham, puis à l'âge de 99 ans, la parole de Dieu a été de nouveau adressée à Abraham, et puis ça lui dit dans Genèse 17, 1 à 4, encore la bénédiction qui est rappelée, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Mais quel âge là, Abraham? 99 ans. Alors là, Dieu lui répète la promesse. Puis là, on lit dans Genèse 17, 17 qu'Abraham est tombé sur sa face. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a ri. Il a trouvé ça drôle. Alors, Sarah aussi, elle a ri. Un peu plus loin, dans le chapitre 18 de mémoire. Et si je me place dans la peau, là, humainement, d'Abraham et Sarah, et ça devait être quelque chose pour leur foi. 99 ans, je vais avoir un enfant. C'est quelque chose, là. Puis l'ange lui a répondu, il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. J'oublie la phrase exacte, là, je vais... C'est ça. C'est la phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop extraordinaire pour l'Éternel? Même à 99 ans, je peux te donner un enfant. Ça ne sera pas Eliezer. Ça ne sera pas Ismaël, qui est de ta servante. Ça va être un enfant qui va venir de Sarah et de toi, Abraham. Alors, la promesse lui est répétée à 99 ans. Et il se passe encore d'autres épisodes. Le roi de Guérar était un homme, était nommé Abimélec. Et puis quand Abimélec a vu encore la beauté de Sarah, il y a eu, même à 99 ans, Sarah était encore une belle femme. Et alors, il avait convenu encore de l'appeler sa sœur. Alors, tout ça pour dire qu'il y a eu des épisodes comme ça qui nous sont donnés dans les Écritures pour montrer la marche d'Abraham, pour nous révéler, oui, les faits historiques, mais nous, en même temps, on voit la marche d'Abraham avec Dieu et sa foi, comment est-ce qu'elle progresse. Et on arrive vraiment à un point culminant ce soir dans la foi d'Abraham, où ce qu'il aura à vraiment faire preuve d'abnégation complète et totale pour montrer qu'il aime Dieu, qu'il aime son Dieu, qu'il craint son Dieu. La déclaration que j'avais prévue ce soir de donner, c'était que Dieu éprouve notre foi. Et ça, c'est une vérité. Puis, j'aimerais qu'on la regarde sur l'angle aussi, que Dieu pourvoira, que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu s'occupe de pourvoir aux besoins de notre foi, comme on le chante dans un chant qu'on connaît bien. Alors, on a besoin de faire preuve de foi, mais qu'en même temps, Dieu, on doit avoir cette confiance-là que Dieu va pourvoir. Et c'était la foi qu'Abraham avait. Que si on vit par la foi, si on marche par la foi, Dieu va pourvoir à ce qu'il nous demande. Et puis oui, Dieu va éprouver notre foi, mais on aura à répondre aussi à ça. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière et on va commencer à lire après ça dans Genèse, le chapitre 22, à partir du premier verset. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer premièrement. Tu es notre Dieu, tu prends soin de nous, Seigneur. On manque de rien. On est vraiment reconnaissant. Tu veux que notre foi grandisse, Seigneur, et tu nous donnes tout ce que l'on a de besoin pour qu'on te fasse confiance pleinement, Seigneur. Je te prie que ce soir, tu puisses nous parler à nos cœurs, à nos têtes, pour que tu nous encourages encore plus de jour en jour, semaine après semaine, que l'on soit des disciples qui se confient en toi, qui sont fidèles à toi, qui ont une grande foi aussi, Seigneur, envers ta parole, envers ta personne. Parle-nous ce soir, nos cœurs, en nom de ton Fils compris. Amen. Genèse 22, et on va lire les versets 1 à 14, mais on va les sectionner en trois parties. On va commencer avec les deux premiers versets de Genèse 22. Quelqu'un qui voudrait me lire les deux premiers versets? Genèse 22, 1 à 2. Danny, merci. OK. Première des choses, Dieu demande quelque chose à Abraham. Avant qu'on regarde le texte, dans l'histoire que l'on connaît d'Abraham, avant ce temps-là, à quoi Abraham avait déjà dû renoncer? Il y a des aspects de sa vie où ce qu'Abraham a dû renoncer à certains aspects de sa vie. Est-ce que vous pouvez nommer quelques exemples? À son pays, à sa patrie. Il a quitté Chaldée. Des choses qui pouvaient être chères aussi à Abraham. D'autres choses qu'on peut nommer. Des choses qui il a dû se séparer. Sa famille, en parlant de sa famille qu'il avait en Chaldée. Oui, OK. Oui, OK. OK, certains biens. OK. Quoi d'autre aussi? Son fils. Lequel? Ismaël. Est-ce qu'Abraham était touché par cette séparation-là? Oui, il était vraiment attristé par la séparation qu'il avait eue avec Ismaël. Et on pouvait comprendre avec le texte, avec l'histoire, puis ce que l'on peut comprendre, c'est que probablement qu'Ismaël était un adolescent, un jeune adolescent, là, peut-être une quinzaine d'années. Il y avait déjà des liens qui s'étaient créés entre eux et il avait dû se séparer. De sa patrie, de son fils Ismaël, Lot, est-ce qu'il tenait à Lot? Oui, il tenait à son neveu. C'est pour ça qu'il l'a amené aussi avec lui. C'était quelqu'un de sa famille. Il l'appelait son frère, bien que c'était son neveu. Et il a dû se séparer de son neveu, dans un sens encore pour le bien, pour la paix. Alors, on a vu quand même dans la vie passée d'Abraham, des moments où ce qu'Abraham a dû se séparer de certaines choses, certaines relations, son fils, son neveu, sa patrie. Et là, maintenant, Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac. Pourquoi est-ce que Dieu... Le verset, je vais juste relire le verset 2. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Elle lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici. » Le texte dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Pourquoi est-ce que Dieu a mis Abraham à l'épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu met notre foi à l'épreuve? Quel est son but? Quel est son désir? Pourquoi est-ce que Dieu veut tester notre foi? Pourquoi est-ce qu'il veut l'éprouver? Oui, Normand. Il y a pas beaucoup de révélations de qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Et ouais. Et je sais pas si je pourrais répondre à cette question-là en disant que oui, ça révèle telle chose et telle chose, parce que le texte ne le dit pas. Mais en même temps, éprouver sans donner la réponse, parce que je vais avoir encore vos commentaires. Éprouver, c'est tester, c'est de voir la solidité. Et puis, comme on pourrait éprouver différentes choses pour en voir où elle en est dans sa solidité. Alors, est-ce que ça implique qu'on se fait secouer un peu? Ben oui. À cette heure, quelle est notre réaction à ça? Ben, ça a différentes choses. J'ai vu Gisèle qui a levé la main. Oui. 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 Elle a dû être ici, oui. Certainement. Est-ce que Dieu ne le sait pas déjà où est notre foi? Oui. Pourquoi est-ce qu'il met notre foi à l'épreuve? Pour que les autres le voient? Peut-être même nous-mêmes? Oui. OK. Oui. Oui. Alors, à travers les épreuves, tu as appris à connaître Dieu et à t'engager encore plus envers lui. Serge, après ça, René. Ouais. Oui. Il l'avait déjà vu lui-même dans le passé, où ce qui est très tard, très âgé, il a eu un enfant, et c'était un miracle. Et Dieu a pourvu à la promesse qu'il lui avait dit. Et comme tu dis maintenant, ben il s'en venait vers une foi de plus en plus inébranlable, où ce que quand que Dieu l'éprouve, il va vers l'avant. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Pour nous rendre de plus en plus solides dans notre foi. Oui, René. Ouais. 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 C'est ça. Ouais. 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 Et dans le texte qu'on va voir tantôt, c'est que Dieu veut voir des choses. Et Dieu le sait, ces choses-là, puis il veut les voir s'accomplir. Mais en même temps, à travers encore les Écritures, ce qu'on apprend des épreuves, c'est qu'on a, nous aussi, à être éprouvés pour nous apprendre sur nous-mêmes et aussi, évidemment, devenir de plus en plus inébranlable, que l'on puisse apprendre à connaître Dieu. Oui, M. Dumont, pendant que M. Dumont va commenter, tournez dans Jacques, s'il vous plaît, Jacques 1. Right.